Les énergies du corps humain. Article paru le 8 avril 2009. Tout le monde est d'accord pour dire s'il est fatigué ou non, énervé ou non, en colère ou non, amoureux ou non, anxieux ou non, etc. Comme vous pouvez le constater, l'être humain possède différents types d'énergie. Généralement, on parle plutôt de celles qui concernent le dynamisme musculaire, mais il y a aussi celles du muscle de l'amour et des muscles du cerveau. Bref, un tour d'horizon serait sympathique pour éclaircir le tout. En effet, à mélanger les torchons et les serviettes, on en arrive à prendre de l'eau de Javel pour nettoyer toutes les fringues. On comprend alors ensuite pourquoi les joints de la machine à laver ne tiennent pas le coup. Et hop, des rhumatismes par là, et hop, un organe qui fait des siennes, et hop, trois boîtes de médicaments pour éteindre les signaux d'alerte qui pissent de partout. Bref, l'art du bricolage dans toute sa splendeur. Alors d'après vous, à qui doit-on aller se plaindre quand nous sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive ? Facile d'aller engueuler le toubib de service et de hurler après la sécu qui fait tout pour ne pas vous rembourser. Le corps humain semble être un tout, et c'est bien heureux. Alors pourquoi le traite-t-on comme un assemblage de pièces détachées ? Là, j'avoue que l'être humain n'est pas vraiment rationnel. En fait, la question est, l'a-t-il été un jour ? Bon, pour faire rapide et simple, voici un premier dessin que je m'en vais vous expliquer plus loin. Globalement, un être humain est l'empilement de 7 plans énergétiques dans la matière, car 5 autres se situent au-delà du corps physique. Cela fait donc 12 plans d'expérience. Vous voyez donc que notre corps est une machine spéciale. Chacun de ces plans possède un centre énergétique appelé chakra. Ils ont tous un nom différent, ainsi qu'une couleur et une note de musique. Chacun de ces plans est en relation avec un système spécifique indiqué sur la droite. Par contre, sur la colonne de gauche est indiqué le genre d'élément avec lequel il fonctionne principalement. Rien que cela vous donnera une idée du type de médicament naturel dont il a besoin pour fonctionner. Chaque plan est imbriqué dans tous les autres. On ne peut donc pas couper en tranches le corps humain en disant que telle partie correspond à tel plan. Si je prends le premier chakra correspondant au système osseux et musculaire, il serait très embêtant que nos bras n'existent pas. Il faut donc plutôt penser en termes de tissu, où chaque plan est tissé avec les autres afin de constituer un motif. La preuve que c'est vrai, c'est que lorsque vous recevez un coup de couteau ou une balle de fusil, le système tend à vouloir s'arrêter. La mort par déchirure du tissu est assez courante. Par exemple, le système digestif commence presque en haut pour fermer tout en bas, et tout cela d'un même tenant. Idem pour le système sanguin. Si l'un des systèmes vient défaillir, on peut dire que vous êtes mal barré. Ces 7 plans sont électriquement sous la tension créée entre le ciel et la terre. Toute rupture énergétique sur l'un des plans entraîne la mort immédiatement. Alors, rassurez-vous, vous n'avez pas de chakra fermé, sinon vous seriez mort. Par contre, il n'est pas interdit de les ouvrir un maximum en les débarrassant des impuretés qui les ralentissent sérieusement dans leur fonctionnement. Le seul truc pouvant entraîner une mort rapide et certaine, sans pour cela endommager le corps physique, est la privation de l'élément feu. 2 cas peuvent se présenter. L'arrêt cardiaque, le feu ne peut plus alors se propager dans le corps, ou l'asphyxie noyade, cela, ce qui est égal à ne plus avoir aucun feu qui ne pénètre dans le corps. Donc c'est simple et radical. En clair et dans l'ordre des éléments, si vous ne respirez plus, la mort est rapide. Puis, si vous n'absorbez plus d'eau, déshydratation par exemple, et enfin de matière, mort de faim par exemple. Voici le premier bilan que nous pouvons faire et que toute la science officielle peut prouver. Par contre, nulle part nous n'en entendons parler de prana, à part dans les sciences hindoues pour la simple et bonne raison et que le prana n'est pas visible sous le microscope. En clair, notre principale source de vie est le prana. Or, notre ignorance à son propos fait que nous nous rabattons sur les autres éléments plus lourds. Malheureusement, le prana se trouve aussi dans l'air, dans l'eau et dans la matière, mais dans des quantités nettement moins importantes. Le résultat est qu'il nous faut manger et boire souvent pour ne pas tomber dans les pommes. Donc, d'un côté, c'est vrai qu'il faut manger, mais d'un autre, c'est tout aussi faux. La différence entre les deux conceptions, c'est que l'un sera continuellement en train de digérer et de s'encrasser avec toutes les maladies et la vieillesse à la clé, tandis que l'autre ne vieillira quasiment pas et sera en parfaite santé. Il est donc conseillé dans tous les cas, même si vous désirez quand même rester dans les traditions, de pratiquer la respiration pranique. Je sais, c'est nouveau, mais ça se trouve sur Internet, sans pour cela se fader les tas de techniques de pranayama des hindous. Donc pour être en bonne santé, il faut se soucier, et dans l'ordre, prana, air bien oxygéné, donc exit le tabac, le smog ou l'air de du périphérique, hein. Ensuite, eau de source ou minérale, et non vin, alcool, bière, Coca-Cola et toutes les saloperies attenantes. Et enfin, matière végétale, donc non viande, pas de poisson, pas de crustacés, etc. Vous comprenez maintenant pourquoi tant de gens sont malades et disent que c'est la faute aux microbes, aux virus, aux industriels, aux OGM, à la pollution et aux produits chimiques, etc. Bref, c'est le gosse qui dit « c'est pas moi ». Je ne vais pas refaire l'histoire ici, mais c'est ainsi. Le seul truc qui m'embête dans l'affaire, c'est que l'on me squeeze sur mes revenus de l'argent via les cotisations sociales pour payer le cancer du fumeur, de l'alcoolo de service, du bien vivant, de l'épicurien et de tout cela au nom du fatalisme. C'est éthiquement parlant difficile à avaler car cette solidarité est totalement faussée par le système lui-même. Bon, le monde étant ce qu'il est, je vais aborder la relation qu'il y a entre ces différents plans d'énergie et la représentation des hexagrammes du I Ching, qui est une science de divination qui n'en est pas une véritablement. Le I Ching est au départ une science des énergies du corps humain qui permet de savoir d'une manière simple quel est le niveau d'énergie d'un individu face à une problématique où une décision doit être prise. La majorité des Chinois accordent beaucoup plus de poids à ce type de divination car ils ont complètement oublié les origines de cette science. C'est un peu à l'image de l'astrologie journalière que l'on trouve dans les journaux. Mais bon, cela n'empêche pas de revenir aux sources pour expliquer le lien qu'il y a entre les différents plans d'énergie, le I Ching et la Merkaba. Ce dernier est, je le rappelle, ce que nous appelons le corps de lumière, c'est-à-dire un niveau énergétique suffisant pour aller se promener sur les autres planètes sans passer par la NASA. Là encore, je ne vais pas aller dans le détail des avantages d'avoir une Merkaba opérationnelle. Vous le découvrirez plus tard dans d'autres articles. Voyons la structure d'un hexagramme du I Ching. Il se compose de deux trigrammes. Le supérieur représente la partie légère et invisible, comme le ciel, tandis que le second, l'inférieur, correspond à la partie dense, celui de la matière. Il y a une correspondance vibratoire entre la ligne 1 et 4, car elles sont la fondation de chaque trigramme, et donc de densité. Idem pour les lignes 2 et 4, ainsi que 3 et 6. Cela prendra son importance plus tard. Les lignes 1 et 2 représentent la Terre avec l'élément Terre, ou matière physique, tout en sachant que la ligne 1 est Yang, masculin, et la ligne 2 est Yin, féminin. Les lignes 5 et 6 sont la dualité dans l'élément Air, qui est symboliquement le ciel, ou le royaume de l'esprit. Enfin, l'homme est représenté par l'élément Eau, qui est l'âme coincée, c'est-à-dire incarnée, entre la matière et la non-matière. Alors maintenant, si vous faites la relation entre le I Ching et les chakras, tout devient clair, et il est alors possible de disserter des relations qu'il y a entre chacun des plans d'énergie et la mathématique du I Ching. Vous découvrez ainsi que le système respiratoire, chakra 5, est très en relation avec le chakra 6, qui est le système nerveux, c'est-à-dire cerveau compris. Il représente le ciel, l'esprit. Alors, si vous voulez avoir de l'esprit et de l'intelligence, commencez par respirer correctement et amplement. La ligne 5, chakra 5, est de nature yang, donc masculine, et ce plan correspond à la gorge, à la parole et à l'acte dans la matière moins dense qui est l'air. Par contre, la ligne 6, qui est d'essence féminine, est plutôt dans le réceptif avec les dieux, le troisième œil par exemple. Il n'agit pas à l'extérieur dans la matière comme le 5, mais il est sa petite voix qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui l'influence considérablement. Idem pour les lignes 3 et 4. Le système sanguin, siège de notre âme, en 4, circule dans tout le corps et est d'essence féminine, tandis que les guerriers masculins du 3 font la garde. C'est le système immunitaire. Il y a donc une forte corrélation entre l'âme et la défense bactériologique. Une bonne âme enchantée, car écoutée, vous apportera nécessairement une vitalité et donc une superbe protection via les agressions extérieures. Par contre, si vous broyez du noir régulièrement, vous allez abaisser votre immunité face aux microbes. C'est connu, quand on est amoureux, on se sent invincible. N'est-ce pas là la preuve que c'est bien le 4 qui conditionne le 3? Le chakra 4 est l'amour inconditionnel, alors que le 3 fait dans celui du pouvoir. Évident, n'est-ce pas? Idem pour la ligne 1 et 2. Votre chakra 1 correspond à la carcasse et aux muscles, c'est l'aspect masculin, alors que la reproduction et le système digestif est plutôt de tendance féminine. Qui fait les gosses et qui fait la bouffe? Qui fait le bricolage, les réparations, les gros travaux, ou qui va au travail pendant que madame reste au foyer? Qui profite de sa force musculaire tandis que l'autre est d'une résistance à toute épreuve? Bref, comme vous le voyez maintenant, la mécanique humaine est d'une simplicité enfantine quand on a découvert cela. Nombre de nos habitudes, de nos croyances et de nos cultures ne font que démontrer le plan de fonctionnement de ce corps humain si prodigieux. Dans le prochain article, je vous parlerai encore un peu plus de cette merveilleuse mécanique que nous mettons à mal par ignorance et souvent à cause d'un ego qui se croit maître à bord.